à toi, oh mon frère. Salut à toi, peuple khmer. Salut à toi, l'Algérien. Salut à toi, le Tunisien. Salut à toi, Bangladesh. Salut à toi, peuple grec. Salut à toi, petit indien. Salut à toi, punk iranien. Salut à toi, rebelle afghan. Salut à toi, le...
Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de La Rage. Moi, c'est Syriac. Théo va m'accompagner pour cette interview et Loan pour le son. C'est une nouvelle émission que l'on vous propose, intitulée « Pas de frontières pour la rage ». Le concept est simple. Nous allons discuter avec une personne qui se trouve dans un autre pays afin de découvrir avec lui une autre culture. Et aujourd'hui, nous sommes avec Camille qui est en Palestine.
Alors, bonjour Camille. La première question, c'est quel âge as-tu ?
Alors moi, j'ai 25 ans.
Ok.
D'où viens-tu, Camille ?
J'ai grandi au Mans, une petite ville dans l'ouest de la France.
Ok, quel est ton parcours au niveau des études ?
C'est un parcours assez compliqué. J'ai eu un baccalauréat scientifique. Après, j'ai fait une année d'études en mathématiques. Ouais. Ensuite, j'ai fait deux années de biologie qui ne m'ont pas plu. Et donc, j'ai fait des études de géographie pendant 4 ans après, jusqu'à ce que je vienne ici. Donc, je n'ai toujours pas fini mes études.
Ok.
Et donc, du coup, en ce moment, tu continues les études ?
Et non, du coup, en ce moment, je suis en Palestine, donc j'ai fait une pause dans mes études je compte les reprendre en revenant en France.
Ok.
Quelles sont tes passions ?
Quelles sont mes passions ? Je m'intéresse beaucoup à la géographie, à la politique aussi. Voilà, je suis un peu sportif. Ouais. Tout ça, ça fait partie de mes passions.
Ok. Alors, où es-tu en ce moment même, Camille ?
Alors en ce moment, comme vous le disiez en introduction, je suis en Palestine. Plus précisément, je suis à côté de Bethléem, qui est une ville en Palestine qui est assez connue parce que c'est la ville où serait né Jésus apparemment. C'est pas très loin de Jérusalem et j'habite plus précisément dans un camp de réfugiés en Palestine qui s'appelle Deïché.
Ok. Alors depuis quand es-tu là-bas ?
Depuis quand je suis là-bas ? Je suis là-bas depuis 8 mois et demi maintenant. Et j'y suis pour 9 mois, ça veut dire que je rentre bientôt en France.
Et il est quelle heure là-bas par rapport au décalage horaire ?
Eh bien, chez moi, il est 1 heure de plus que chez vous, tout simplement.
C'est tout ?
C'est tout, ouais.
Pourquoi as-tu choisi la Palestine et pas la Pologne ou l'Espagne ou...
Alors, pourquoi j'ai choisi la Palestine ? C'est une bonne question. Moi, j'étais militant sur la question de la Palestine. Le premier choix, déjà, c'est que j'avais envie de partir. J'avais envie de partir à l'étranger, j'avais envie d'avoir une expérience de vie à l'étranger. Et c'est pour ça que je voulais partir sur le long terme et qu'en plus, comme je vous disais, je suis intéressé par les questions de géographie, les questions de politique et que la Palestine, c'est un pays qui m'a toujours marqué parce que moi, de mon point de vue personnel, j'ai l'impression que le peuple palestinien, c'est un peuple qui subit une injustice. Et donc, j'ai eu l'occasion de partir en Palestine. J'avais déjà milité sur la question palestinienne quand j'étais en France. Et le fait que j'ai eu cette opportunité de partir, je l'ai saisi pour partir. Et donc, je me suis retrouvé en Palestine comme ça.
Même si ça va être difficile de le résumer en quelques mots, tu parles de militer, tu parles de conflits, d'injustice. Tu peux nous faire un point sur ce qui se passe en Palestine avec ton regard ?
Ouais, je peux essayer de vous faire un point sur ce qui se passe. C'est vraiment difficile à résumer en quelques mots, comme tu disais.
En gros, le conflit mais israélo-palestinien, quoi.
En gros, en 1948, il y a eu la création de l'État d'Israël. Donc, je reprends un peu depuis le début, mais il y a eu la création de l'État d'Israël qui s'est fait sur une idée qu'on appelle le sionisme, qui est l'idée les Juifs, le peuple juif doit avoir une terre pour lui et que cette terre, c'est Israël. Le problème de cette idée, c'est qu'elle s'est constituée sur la base avec des gens qui disaient que la Palestine était le peuple juif était un peuple sans terre et qu'il leur fallait une terre sans peuple et qu'ils considéraient que la Palestine était une terre sans peuple. Et le problème de ça, c'est qu'en réalité, la Palestine n'était pas une terre sans peuple. Il y avait des Palestiniens qui sont des gens qui ont toujours vécu là, qui avaient différentes religions. Donc, il y avait des Juifs parmi eux, il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens. Mais tous ces gens-là, au moment de la création d'Israël, se sont fait comment dire, se sont fait expulser de leurs terres pour une partie d'entre eux et ont été et du coup ont été déportés à l'extérieur de ce qui a été les frontières de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle les camps de réfugiés, donc je disais que moi j'habite dans un camp de réfugiés, c'est des gens qui depuis 1948 habitent dans ces endroits-là et demandent à pouvoir retourner dans les villages desquels ils ont été expulsés. Donc ça, c'est les débuts du conflit, et le conflit a évolué bien sûr d'année en année, et aujourd'hui on entend régulièrement aux infos, tous les 2 ans à peu près, qu'il y a une guerre à Gaza entre Israël et la Palestine. Il y a une partie du conflit qui est armée, il y a pour les Palestiniens de Cisjordanie aujourd'hui, qui est une autre partie de la Palestine, il y a un mur qui est créé autour d'eux, qui les empêche de bouger en Israël, qui les empêche pour une grande partie de bouger tout court. Donc voilà, il y a un conflit avec une disproportion entre ce qu'est l'État d'Israël et ce qu'est l'État palestinien, et du coup, on est dans une situation où c'est un pays qui est en conflit, ouais.
Ok.
Ok. Est-ce qu'il y a une barrière avec la langue, du coup ?
Est-ce qu'il y a une barrière avec la langue ? En partie, même si moi, je pense qu'il y a toujours d'autres moyens de communication que la langue. Moi, je communique beaucoup en anglais avec les gens ici, et je me suis aussi mis à apprendre l'arabe pour communiquer avec les gens qui ne parlaient pas anglais. Donc, au début, il y avait une grosse barrière. Donc on réussissait à communiquer par d'autres biais, par des gestes, en montrant des choses, par des regards, des choses comme ça. Mais au fur et à mesure, en apprenant la langue, donc ici les gens parlent arabe, en apprenant l'arabe, du coup maintenant cette barrière-là, elle est presque entièrement tombée.
Puis ça fait un an que tu y es, donc du coup ça, c'est plus facile pour apprendre.
Tout à fait. Tout à fait. Au début, j'avais vraiment du mal avec l'arabe parce que c'est une langue qui m'était totalement inconnue, avec des prononciations qu'on n'a pas du tout dans la langue française. Et donc, c'était vraiment difficile. Mais au fur et à mesure, mon oreille s'est adaptée à l'entendre tous les jours. Et donc, j'ai compris des prononciations. J'ai fait l'effort de l'apprendre. Et donc, maintenant, je ne parle pas très bien, mais j'arrive à le parler pour les choses de la vie quotidienne. J'arrive à me déplacer en Palestine en parlant arabe. J'arrive à acheter ce dont j'ai besoin en arabe. J'arrive à m'en sortir dans la vie quotidienne en arabe.
Ok. D'accord. Comment y es-tu allé en Palestine ?
Comment j'y suis allé ? J'y suis allé en avion. J'ai pris un avion qui est parti de France et qui est arrivé à l'aéroport Ben Gourion, qui est un aéroport qui est situé en Israël, parce que la Palestine n'a pas d'aéroport. Et après d'Israël, j'ai rejoint la Palestine en bus.
Quel dispositif as-tu utilisé ?
Alors moi, ce qui m'a permis de venir, c'est le service volontaire européen, qu'on appelle plus couramment le SVE. Et le SVE, pour vous expliquer un peu ce que c'est un programme de l'Union européenne, donc de l'Europe, qui permet à des jeunes d'avoir le droit à la mobilité une fois dans leur vie, qui est aussi basé sur l'idée d'une Europe entre guillemets ouverte. C'est pour ça que ça inclut la Palestine, qui n'est pas un pays européen, qui est un pays du Moyen-Orient, mais du coup ça inclut certains pays du Moyen-Orient, ça inclut certains pays de toute la région méditerranéenne, notamment les pays du Maghreb. Et ce programme-là, donc tout est financé par l'Union européenne, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas d'argent à débourser pour venir ici, y compris dans les transports, c'est-à-dire que mes billets d'avion sont payés, que mon habitation ici, elle est payée, que ma nourriture ici, elle est payée par l'Union européenne, donc tout ça. Et c'est possible une fois dans sa vie, entre 18 et 30 ans, pour un jeune de faire un SVE, et ça se matérialise le plus souvent par des partenariats entre associations. C'est-à-dire que pour pouvoir faire un SVE, il faut postuler un projet avec une association d'accueil et une association d'envoi.
Et donc du coup, c'est quoi ton projet à toi ?
Alors, mon projet à moi, c'est de travailler dans une association d'éducation populaire. L'éducation populaire, en gros, c'est l'idée que les gens apprennent pas seulement à l'école ou pas seulement dans le cadre de la famille, mais apprennent aussi tout au long de la vie en apprenant des gens, en apprenant un peu de tout le monde, quoi, pour le faire très vite. Et en gros, moi, je travaille dans une association d'éducation populaire. Donc, j'ai fait un peu d'animation avec les enfants du camp de réfugiés dans lequel j'habite. J'ai bossé sur le site internet de l'association dans laquelle je suis. J'ai fait un petit peu de travail administratif aussi pour l'association. Je donne des cours de langue aussi, de français et d'anglais. J'ai pris des cours de langue, comme je vous ai dit, j'ai appris l'arabe. Et je suis en capacité aussi de monter mes propres projets. Par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler sur l'histoire du camp de réfugiés. Donc, je me fais aussi aider par les volontaires de l'asso. Donc voilà, à la fois je leur apprends de ce que moi je connais, de mon expérience que j'ai vécue en France, et à la fois eux, ils m'apprennent de ce qu'eux, ils connaissent et de leur expérience de Palestiniens qui vivent en Cisjordanie.
Donc, t'es logé où du coup en ce moment?
Alors moi j'habite dans ce camp de réfugiés, et en fait l'association dans laquelle je travaille, elle a une guest house. Une auberge de jeunesse en gros, et du coup j'habite dans l'auberge de jeunesse, j'ai ma chambre dans cette auberge de jeunesse, et j'y suis totalement indépendant.
D'accord, ok. Quel est le climat en fait là-bas?
Quel est le climat? Je crois qu'on qualifie ce climat de méditerranéen, mais en gros, il fait souvent très chaud. Là aujourd'hui, il a fait très chaud par exemple. Tout l'été, il fait très chaud. Par exemple, moi je suis arrivé fin mai ici. De fin mai à début novembre, il n'a pas plu une seule fois. Donc voilà.
C'est
Mais
limite le désert.
l'hiver, il fait un peu moins froid que chez nous, mais il fait froid quand même. Par exemple, j'ai eu de la neige en janvier.
D'accord. Donc
Nous,
du
on n'en
coup,
a pas eu.
est-ce que ça change du coup de la France?
Quel artiste as-tu choisi pour cette pause musicale et pourquoi?
Alors, pour cette pause musicale, moi j'ai choisi de vous faire écouter Apo and the Apostles, qui est un groupe de Palestiniens. J'ai choisi de vous faire écouter leur chanson Badjiwanik. Donc, ce n'est pas tant pour le groupe, c'est plutôt pour la chanson. C'est une chanson que moi j'ai découvert ici, que je ne connaissais pas du tout, qui est en gros qui vient d'un groupe pop palestinien. Et c'est la chanson qui m'a un peu guidé tout le long de mon SVE, parce que c'est une des premières chansons en arabe que j'ai découvertes. Et du coup, c'est mes meilleurs amis ici qui m'ont fait écouter cette chanson-là. Donc, je l'apprécie pour ça. C'est une chanson toute simple qui parle de quelqu'un qui vient et qui demande à la personne qu'il aime où elle est. Et donc, c'est ça que veut dire Badjiwanik. J'arrive, où es-tu? Et c'est une chanson dynamique, et c'est une chanson sur laquelle j'ai fait mes premières soirées, entre guillemets, en Palestine.
شابو شعراتي وانا حالي حالتي بين شغلي وسهراتي مش رايق لحياتي وقتي محل تاني بكتب لك غناني ما حد اجاني عشانك يا اماني شابو شعراتي وانا حالي حالتي بين شغلي وسهراتي مش رايق لحياتي وقتي محل تاني بكتب لك غناني ما حد اجاني عشانك يا اماني
باجي وينك والله باجي وينك بس قولي شو مالك بس قولي شو مالك باجي وينك والله باجي وينك بس قولي شو مالك بس قولي شو مالك باجي وينك والله باجي وينك بس قولي شو مالك بس قولي شو مالك باجي وينك والله باجي وينك بس قولي شو مالك بس قولي شو مالك باجي وينك والله باجي وينك بس قولي شو مالك بس قولي شو مالك باجي وينك والله
Et donc c'était Apo and the Apostles, une petite pop proposée par Camille. Donc Camille, là on a fait un peu le résumé de ta vie là-bas, le contexte, etc. Maintenant justement on va parler plus particulièrement du contexte, le climat de tension on va dire. Et les gars, ils avaient une petite question par rapport à ça.
Alors, y a-t-il une tension là-bas et te sens-tu en sécurité ?
Alors, c'est deux questions à la fois, parce que je vais répondre oui et oui. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une tension, j'en suis même sûr, et je la vis au quotidien, notamment, pour citer juste quelques exemples, de temps en temps, l'armée israélienne, elle intervient dans le camp de réfugiés où j'habite, pour venir arrêter des Palestiniens. Et donc, c'est tendu parce que les Palestiniens, au moment où l'armée vient, parce que légalement, l'armée n'a pas le droit de venir, parce que c'est sur le territoire palestinien et qu'en général, une armée, elle n'intervient pas sur un territoire étranger en dehors de situation de guerre. Donc, elle n'a pas le droit d'être là et pourtant, elle le fait, elle vient arrêter des gens. Et donc, en général, les Palestiniens qui sont ici, ils se battent entre guillemets contre l'armée en jetant des pierres, des choses comme ça. Donc c'est une situation qui est tendue. Et pourtant, ce qui est contradictoire, c'est que je me sens en sécurité. Je me sens en sécurité parce que je sais qu'en tant que personne internationale, donc n'étant pas palestinien, il peut rien m'arriver ici. C'est-à-dire que d'une, l'armée ne fera rien contre moi parce que ça poserait trop de soucis à l'État d'Israël de faire quelque chose à quelqu'un qui est international. Et en plus, les copains avec qui je vis ici, les copains, les copines avec qui je vis, ils ont l'habitude de ce climat-là et donc ils sont hyper rassurants avec moi en m'expliquant c'est normal, tout en m'expliquant que c'est pas normal que l'armée soit là, mais en m'expliquant que ça arrive régulièrement et que faut pas s'inquiéter et qu'il peut rien se passer. Et vu que eux sont sereins au moment où l'armée intervient, ça me permet moi aussi d'être serein, vu que je leur fais confiance, qu'eux ils connaissent mieux que moi la situation. Et si eux ils me disent qu'il y a pas de souci, je leur fais complètement confiance et du coup il y a pas de souci. Donc pour répondre à la question, oui, il y a une tension. Il y a une tension qui est ambiante, qui est permanente entre la Palestine et Israël. Et oui, je me sens en sécurité malgré cette tension permanente.
Ok.
Moi, j'ai juste une petite question. Tu as précisé que tu te sentais en sécurité, mais la toute première fois, comment tu as réagi face à cette situation ?
La première fois, comment j'ai réagi face à cette situation ? J'ai pas eu peur, justement, parce que tout ce que je vous disais sur mes copains qui me rassuraient, tout ça. Par contre, j'ai senti l'injustice parce que l'armée israélienne, quand elle intervient avec des armes dans le camp de réfugiés, des armes à feu ou alors des tirs de gaz lacrymogène, des choses comme ça. Les copains palestiniens, eux, ils ont que des pierres pour se défendre, parce que moi, je pense que ce qu'ils font, c'est se défendre. Et donc, ouais, j'ai eu un sentiment d'injustice plutôt qu'un sentiment de peur.
Quelle est la place des jeunes là-bas? Maintenant que ça fait 8-9 mois que tu y es, que tu fais partie de la grande classe, on va dire, d'âge des jeunes, quelle est la place, selon toi, des jeunes?
Alors, les jeunes, à mon avis, vivent un peu la situation différemment que les autres générations, notamment les plus jeunes, parce que il n'y a pas eu d'événement majeur dans la situation palestinienne, dans le conflit israélo-palestinien qui a concerné les jeunes de Cisjordanie. Il y a eu des événements majeurs à Gaza, parce que la Palestine, pour rappeler à tout le monde, c'est deux territoires différents. C'est la bande de Gaza, qui est une toute petite bande de terre, et la Cisjordanie, qui est à peu près grand comme un département français. Et en Cisjordanie, il n'y a pas eu d'événements majeurs depuis les années 2000 et la deuxième intifada, ce qui veut dire que les plus jeunes, aujourd'hui, ils n'ont pas connu d'événements majeurs de résistance palestinienne. Donc, ils ont un rapport au conflit qui est complètement différent. Et donc la place des jeunes dans la société, elle est aussi liée au conflit israélo-palestinien, parce que aujourd'hui les jeunes, ils voient plus de en Palestine, la majorité des jeunes, ils ont du mal à avoir une perspective de sortie du conflit, et du coup ils sont un peu démunis face à la situation, et ils s'organisent pas mal, notamment dans le camp de réfugiés où j'habite moi, qui est l'endroit que je connais le mieux. Les jeunes, ils s'organisent vachement en association. Alors, il y a celle dans laquelle je travaille, mais il y a deux, trois autres associations aussi dans le camp de réfugiés où, vu qu'il y a très peu de travail en Cisjordanie, d'emplois rémunérés, les jeunes, pour occuper leur temps, de manière générale, ils font un peu de l'associatif, ils font des choses comme ça, ou alors des études qui débouchent en général sur pas grand-chose. Mais voilà, la place des jeunes, elle s'occupe... Moi, je trouve qu'ils ont un rôle dans la société par le réseau associatif, par les campagnes qu'ils mènent. Notamment ici, dans le camp de réfugiés où j'habite, il y a des jeunes qui font des campagnes sur la santé, il y a des jeunes qui font des campagnes sur des maladies en particulier, il y a des jeunes qui s'impliquent dans des groupes de vidéos, de l'art, et que tout ce qui est un peu culturel en Palestine, aujourd'hui, c'est très majoritairement les jeunes qui occupent cette place-là, quoi.
Donc, ça veut dire que toi, tu as vu un contexte différent en tant que jeune occidentaux qui a fait des études. Tu as eu la chance, la possibilité de tester plusieurs études, comme on l'a entendu au tout début, même si pour certains, c'est se chercher, perdre du temps, etc. Pour d'autres, c'est au moins tester et être sûr de ce que tu veux faire. Là, actuellement, en Palestine, tu as plutôt un discours de les jeunes font des études, mais qui ne servent pas à grand-chose, et au final, le taux de chômage est assez élevé. C'est ce que tu es en train de dire.
Ouais, je pense pas que ce soit la faute des jeunes ou la faute du système éducatif palestinien ou tout ça, mais en gros, une grande partie de l'économie en Cisjordanie, elle est soit dirigée ou rendue impossible par Israël. C'est-à-dire que pour une grande partie des produits, Israël fait en sorte que ces produits soient vendus moins cher en Cisjordanie, et du coup pour faire profiter les entreprises israéliennes. Et à chaque fois qu'il y a un peu une grosse entreprise qui essaie de se construire en Palestine, Israël essaie de mettre des bâtons dans les roues de cette entreprise par plein de moyens différents, mais notamment un des moyens qui peut être utilisé, c'est de rendre impossible le transport de matériaux jusqu'à cette entreprise, qui fait que en fait, l'économie de la Cisjordanie et de la Palestine de manière générale, elle est maintenue sous pression par Israël et elle est réduite à son maximum, ce qui fait qu'il y a un taux de chômage très important dans la société palestinienne, encore plus dans les camps de réfugiés où c'est les populations les plus pauvres, entre guillemets, de Palestine qui vivent, même si ce n'est pas le cas de tous les gens qui habitent dans le camp de réfugiés. Mais du coup, le fait que cette économie soit bloquée par Israël fait que du coup, il y a un taux de chômage qui est très important et que la plupart des gens qui font des études, s'ils ne s'en vont pas à l'étranger, parce qu'ils n'ont pas tous la possibilité de partir à l'étranger, leurs études ne leur servent pas forcément à trouver un travail par la suite, quoi.
Ok, on pourrait en parler des heures, bien sûr, de ce conflit si difficile à cerner et à comprendre, d'autant plus qu'on ne le vit pas sur le terrain. Toi, ça va faire 8-9 mois que tu y es. Quelle solution tu as avec ton regard d'occidentaux, athée, quelle solution tu pourrais avoir ou des prémices de changement tu pourrais amener pour faciliter cette vie des jeunes, alors?
Et C'est une question intéressante, je pense, parce que dans la question, il y a « avec ton regard d'occidental ». Et moi, la première réponse que j'ai envie de donner à cette question, c'est que c'est pas à moi de décider quel sera le changement en Palestine, comment le conflit il évoluera. C'est-à-dire que moi, je pense que je peux juste être un élément de solidarité du peuple palestinien, mais que c'est pas à moi de prendre la décision sur quelle doit être la solution du conflit, et que ça, c'est aux Palestiniens de le choisir et pas à moi. Ça, c'est la première réponse que j'ai envie de donner. Et après, moi, j'ai un point de vue sur la question, et qui est le point de vue que les copains palestiniens, de manière générale, ils m'ont dit. Et en gros, pour le faire très rapidement, parce que ça pose aussi plein de questions de le dire comme ça, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui peut être une solution au conflit, c'est le jour où Palestiniens et Israéliens auront les mêmes droits sur tout le territoire qui aujourd'hui constitue Israël et la Palestine. C'est-à-dire qu'ils pourront tous avoir le droit à la mobilité de la même manière, avoir une égalité des droits et avoir une égalité réelle sur ce qu'est le territoire israélien et palestinien. Parce que par exemple, aujourd'hui, la majorité des Palestiniens de Cisjordanie n'ont pas le droit d'aller en Israël, alors que les Israéliens ont le droit d'aller en Cisjordanie, et que d'ailleurs il y a des colonies israéliennes sur le territoire palestinien. Du coup, on voit bien qu'il y a une inégalité en termes de droits, et que pour moi, une des solutions du conflit, c'est que la population israélienne comme la population palestinienne aient les mêmes droits sur l'intégralité du territoire. Donc voilà, moi je le vois comme ça, mais tout en pensant bien qu'au final, cette réflexion-là, c'est surtout et avant tout la réflexion des Palestiniens que j'ai côtoyés et qui m'ont dit ça, et ce n'est pas ma réflexion en tant qu'occidentale. Et par contre, en tant qu'occidentale, là où j'ai une place à jouer, c'est sur le mouvement de solidarité, et notamment dans ce qu'on appelle la campagne BDS, la campagne de boycott des produits israéliens.
Yes.
Alors, tout à l'heure, là, juste avant l'avant-dernière question qu'on a posée, tu as prononcé le mot boycott. Alors, qu'est-ce que c'est le boycott ou un boycott ?
Alors, le boycott, c'est le fait de ne pas acheter des produits, ou pas seulement des produits, mais en gros d'essayer d'isoler économiquement, mais pas seulement économiquement, aussi politiquement, publiquement, sportivement par exemple, un État ou quelque chose d'autre. Par exemple, il y a des gens qui disent il faut boycotter McDonald's parce que McDonald's c'est de la malbouffe ou parce que ça exploite des gens. Aujourd'hui, il y a une campagne internationale de boycott de l'État d'Israël. Cette campagne internationale, ce qu'elle dit, c'est qu'aujourd'hui, l'État d'Israël il commet des crimes contre le peuple palestinien, et que du coup il faut l'isoler à l'échelle internationale pour qu'il se rende compte que sa politique n'est pas juste pour tout le monde. En gros, pour le faire très vite, c'est un peu ça. Et par exemple, cette question du boycott, elle a existé aussi au moment de l'apartheid en Afrique du Sud, où les Noirs étaient opprimés par les Blancs en Afrique du Sud. Et du coup, il y a eu un boycott de l'État d'Afrique du Sud qui a permis d'améliorer la situation par la suite. Et là où je disais que pour moi, en tant qu'occidental, j'ai un rôle à jouer dans cette campagne de boycott, c'est parce qu'en Palestine, c'est... Comme je l'expliquais sur l'économie qui est en partie contrôlée par Israël, c'est impossible de boycotter. C'est possible pour les produits alimentaires du quotidien, tout ça, mais je cite un exemple tout bête, si tu as besoin de réparer tes WC et qu'il faut que tu achètes une lunette de toilette, les lunettes de toilette que tu vas trouver en Palestine, c'est celles qui sont fabriquées en Israël. Donc c'est impossible de boycotter en Israël. Par contre, c'est une campagne qui est destinée à l'international, qui est appelée par le peuple palestinien, et qui dit que c'est un des moyens que les gens qui habitent à l'extérieur de la Palestine puissent utiliser pour aider le peuple palestinien dans sa lutte.
Est-ce qu'il existe un site internet pour ton association, pour que les gens puissent venir consulter ou un truc comme ça?
Moi, l'association dans laquelle je travaille s'appelle LAYLAC, LAYLAC, et donc le site internet c'est www.en pour anglais .laylacdo.org.
Ok,
merci. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter durant ton long séjour?
Ouais, j'en aurais des milliers, mais si t'en veux juste une,
c'est drôle.
Une assez drôle, allez, allons-y pour une assez drôle. En Palestine, la langue des signes, c'est-à-dire tout ce qui se communique par les signes, c'est complètement différent de chez nous. Par exemple, nous, quand on dit non, on fait un geste de la tête qui va de gauche à droite. Ici, pour dire non, ils font juste un hochement de tête vers le haut. Et donc, une fois, j'arrive dans un magasin, c'était au début de mon service volontaire. J'arrive dans un magasin, je ne sais plus ce que je demande, je crois que c'était du lait, mais je demande au vendeur du lait. Et le vendeur lève la tête un petit coup, et je ne comprends pas. Et du coup, je lui demande s'il y a du lait. Et il relève la tête d'un petit coup, et je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire. Et donc, il fait ça 3-4 fois. Jusqu'à ce qu'à la fin, ils me disent un peu énervé, non, il n'y a pas de lait, je fais que te le dire. Et en fait, je n'avais pas compris parce que la langue des signes est complètement différente ici de ce qu'on peut avoir chez nous. Et donc, il y a eu une incompréhension totale entre lui et moi.
Ouais, heureusement que ça reste sur du lait et pas sur autre chose.
Ouais.
Tout à fait.
Qu'en retiens-tu de cette longue aventure, Camille?
Eh ben, que du positif. Je retiens. Qu'est-ce que je retiens de cette longue aventure? Ouais, que du positif, c'est-à-dire que pour moi, ça a été ma première expérience de vie à l'extérieur de la France. J'avais déjà voyagé à l'étranger, mais pour des vacances. Là, j'ai vécu à l'extérieur de la France, dans un pays qui a une culture qui est complètement différente de la nôtre, parce que c'est une culture qui est majoritairement musulmane, même s'il n'y a pas que des musulmans en Palestine, il y a aussi des chrétiens, mais c'est une culture qui est majoritairement musulmane, avec des codes de société qui sont différents, avec des relations hommes-femmes qui sont différents, avec toute une série de choses qui sont complètement différentes. Mais du coup, j'en retiens le fait d'avoir évolué individuellement, d'avoir compris des choses, pas juste politiques, mais aussi des choses sur l'échange avec les personnes, sur la communication avec les gens, sur le fait que ma culture, elle est pas, c'est pas la seule dans le monde, que mon point de vue, des fois, il peut paraître complètement fou pour quelqu'un de Palestine. Allez, je vous redonne une petite anecdote.
Ouais,
Une fois,
cool.
Une fois, j'ai rencontré quelqu'un. Moi, je ne suis pas croyant, je suis athée. Et du coup, j'ai rencontré quelqu'un qui était croyant et qui me dit, mais en quel Dieu tu crois, toi? Je lui dis, moi, je ne suis pas croyant. Et il me dit, non, attends, t'as pas compris la question. Il me fait, est-ce que tu es musulman? Je fais, non, je ne suis pas musulman. Il me fait, ah bon, mais est-ce que tu es chrétien? Je fais, non, non, je ne suis pas chrétien. Il me fait, ah bon, est-ce que tu es juif? Je fais, non, je ne suis pas juif. Il fait, non, non, t'as pas compris la question. Et il m'a reposé exactement les mêmes questions. Est-ce que j'étais musulman? Est-ce que j'étais chrétien? Est-ce que j'étais juif? Et pour lui, c'était inimaginable que je puisse ne pas être croyant. Donc, voilà, j'ai mon. Ouais, j'en retiens une expérience très forte à l'échelle individuelle et j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais imaginé rencontrer, des gens que si je les avais sûrement rencontrés en France, seraient sûrement pas devenus mes amis parce qu'ils ont une culture différente de la mienne, mais qui en les rencontrant ici sont devenus mes amis et font même aujourd'hui partie de mes meilleurs amis. Donc j'en retiens beaucoup beaucoup de positifs.
Ok.
Si tu avais la possibilité d'y retourner, tu sauterais sur l'occasion ou pas?
J'y retournerai, quoi qu'il arrive. Je sais d'ores et déjà que j'y retournerai. Pas par un dispositif organisé, je pense, mais quand j'aurai des vacances et quand j'aurai financièrement les possibilités, je reviendrai en Palestine parce que c'est aujourd'hui, c'est un peu ma deuxième maison. Comme je disais, j'ai une partie de mes meilleurs copains qui vivent ici. Je sais que si je viens ici, je serai accueilli, je serai hébergé, je trouverai tout ce qu'il me faut. Et ouais, il y a des gens que j'aurais envie de revoir. Il y a une situation que j'aurais envie de revoir, un contexte politique, un contexte géographique que j'aurais envie de revoir, de voir comment il évolue. Et donc, je sais d'ores et déjà que je reviendrai ici. Ouais.
Merci beaucoup Camille pour ton témoignage. Dernière petite question, comment on dit au revoir?
Maa salam. C'est un mot qui veut dire avec de la paix.
Ah, ok.
Ok.
Ah,
Merci
c'est
beaucoup.
bizarre.
Bon, bah, Mara Salam, Camille, et bon
Mara
retour en
Salam.
France.
Et bah à bientôt.
Ça marche, bah merci à vous et puis Mara Salam à vous tous.
Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit Indien, salut à toi, punk iranien, salut à toi, rebelle afghan, salut à toi, le.